Stop, c'est parti.
Allumez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Donc il est 9h40 sur France Inter et donc c'est l'instant M qui démarre.
Et vous coupez ?
Non, je vous
vois. Vous êtes en direct, allez-y.
Le Monde, quotidien national fondé par Hubert Boeuf-Méry, s'est plus qu'enorgueilli de son indépendance. Il en a fait le socle de son journalisme. Dans une situation financière critique, Le Monde est racheté en 2010 par trois hommes d'affaires, Pierre Berger, Xavier Niel, patron de Free, et le banquier Mathieu Pigas. Les rédactions du Monde respirent. Elles pensent avoir sauvé leur indépendance. Elles pensent ces trois actionnaires parfaitement solidaires entre eux. Seulement voilà, Pierre Berger est mort, Mathieu Pigas s'avère peut-être moins riche qu'il n'y paraissait. Stupéfaction avant-hier lorsque les journalistes du Monde découvrent et publie que l'un de leurs actionnaires majoritaires s'associe avec un milliardaire tchèque, un certain monsieur Kretinsky, qui en quelques mois a racheté plusieurs magazines français. Mais que veut-il ce nouveau dévoreur de journaux? Pourquoi Mathieu Pigas n'a-t-il prévenu personne? L'indépendance du Monde est-elle menacée? Que les salariés de ce groupe de presse savent-ils vraiment de ceux qui les contrôlent?
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Jérôme Fenoglio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Monde. Donc je précise que vous êtes directeur du quotidien, mais que dans le groupe Le Monde, il y a également l'Obs, Télérama, Courrier International, La Vie, Le Monde Diplo, etc., etc. Donc c'est d'un groupe de presse, voilà, pluriel, dont on parle ce matin avec vous. On va questionner justement cet enjeu sur des actionnaires, de qui contrôle, de qui possède Le Monde et de ce qui s'envisage pour la suite. À vos côtés, Jérôme Fenoglio, Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Sonia.
Comme chaque vendredi matin avec sa semaine médiatique, une semaine très présidentielle. Mais tout d'abord, un petit mot d'actualité, la presse, rien que la presse en ce moment. La presse française qui entre dans une nouvelle ère de turbulences et de changements de main. Sachez qu'hier, de très nombreux salariés de Mondadori ont manifesté publiquement leur colère et leur inquiétude. Le premier groupe de presse magazine français est d'origine italienne. Il s'appelle Mondadori, possède Grazia, Science et Vie, Closer, Téléstar, Biba, etc. Autant de titres revendus d'un bloc à un entrepreneur spécialisé dans le numérique, Reworld Media, qui travaille avec très peu de journalistes et monétisent tous ces contenus auprès des annonceurs. Mondadori France estime qu'il y a désormais 700 emplois menacés. Voilà, et l'ironie du sort, c'est que les salariés de Mondadori manifestaient hier devant le ministère de la Culture à Paris, pile en face du musée du Louvre, sur la façade duquel trônait une immense affiche avec marqué « Rêve d'Italie ». Voilà, or leur actionnaire Mondadori est italien, et c'est cet Italien qui se débarrasse de 700 personnes et de 700 emplois. Bonjour Bruno, rebonjour Bruno. Voilà. Alors vous avez regardé cette semaine la façon dont Emmanuel Macron s'est invité dans l'élévateur de TF1 et de France 2 et vous nous dites ce matin que vous avez eu la sensation d'entendre une très curieuse musique.
Oui, car la petite musique qui m'a semblé reconnaître Sonia, c'est celle du mépris. Alors attention, non, pas du mépris de Jean-Luc Godard, non, celle du mépris à l'égard des journalistes et même de tous ceux qui fabriquent la télévision. Pourquoi ? Eh bien d'abord, parce que j'ai vu un président de la République s'incruster dans le poste sous une forme que je croyais totalement dépassée ou réservée aux vœux de fin d'année, façon Valérie et Anémone Giscard d'Estaing.
Bonne année à vous tous.
Bonne année.
Une allocution en majesté depuis le palais de l'Élysée, c'est-à-dire un exercice, comme l'a parfaitement fait remarquer Gilles Boulot,
que les présidents de la République réservent aux occasions solennelles.
Le problème, c'est que mardi, il n'y avait aucune raison de se montrer solennel à ce point. Le gouvernement avait été remanié à la marge, on avait tout juste changé trois ministres et deux secrétaires d'État, et c'était tellement pas solennel que le Premier ministre n'avait même pas jugé bon de présenter sa démission. Bref, on était bien loin de l'époque où, à la veille d'entrer en guerre contre l'Irak, Mitterrand avait débarqué dans nos postes depuis l'Élysée pour nous flanquer les chocottes.
Les armes vont parler.
Du coup, je me suis demandé pour quelle raison Emmanuel Macron avait bien pu choisir d'intervenir sous une telle forme. Alors je l'ai écouté très attentivement et je l'ai entendu dire ça.
Je tenais ce soir à m'adresser directement à vous.
Et C'est ainsi que j'ai compris que directement, ça voulait dire sans avoir à supporter ces emmerdeurs de journalistes. Fini donc l'époque des joutes musclées avec Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Fini le mode de communication du Nouveau Monde et terminé les contradicteurs, ce qui est extrêmement pratique puisque ça permet par exemple de pouvoir dire ceci sans jamais être démenti.
Le gouvernement est sur la bonne voie.
Bah voyons, alors vous allez me dire Sonia, pourquoi est-ce que vous convoquez Le Mépris? Eh bien tout simplement parce que renseignement pris auprès des états-majors de TF1 et de France 2, je suis en mesure de vous révéler ce matin que les chaînes n'ont appris qu'à 17h que le président de la République viendrait s'installer dans leur 20h. Et qu'à cette heure-là, l'Élysée avait promis une intervention de 5 minutes, pas plus. Or, finalement, l'intervention d'Emmanuel Macron à la montre Seiko à quartz de Gilles Boulot...
Elle a duré très précisément 12 minutes et 15 secondes.
Alors 12 minutes au lieu de 5, qu'est-ce que ça change? Eh bien pour un JT, ça change tout, car ça bouleverse le conducteur. Je vous explique. Un journal, ça dure généralement une petite quarantaine de minutes. Ceux qui le fabriquent décident vers 9h du matin d'y faire entrer un certain nombre de reportages. Seulement voilà, si vous avez 12 minutes de moins, il faut faire sauter 5 ou 6 sujets. Un jour de remaniement et d'inondation dramatique, c'est pour le moins fâcheux. Donc, en décidant très tardivement de venir causer en majesté pendant 12 longues minutes, Emmanuel Macron a proprement conduit les chaînes à écraser toute une partie du travail journalistique qu'elles avaient produit en amont et à remplacer portrait des nouveaux ministres, analyse et commentaires par sa seule voix à lui. Alors voilà, dans le générique de votre émission, Sonia, on entend chaque matin Emmanuel Macron dire que les journalistes ne l'intéressent pas.
Ah, vous avez remarqué ça.
On sait désormais que leur petite contingence de fabrication ne les meuf pas non plus. C'est inquiétant, car lorsque l'on méprise ainsi ceux qui fabriquent la télévision, on méprise également par ricochet tous ceux qui la regardent. Et ceux qui, comme nous, se rappellent du mépris de Godard... se souviennent parfaitement qu'au-delà du mépris, le cinéaste montrait aussi dans son film comment se désagrège un couple. Bonne journée.
À vous aussi, Bruno. Et on vous réécoute sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, est mon invité ce matin. Les questions que nous soulevons dépassent largement l'avenir de vos 400 journalistes. Je dis une bêtise, 400, c'est
450
ça 450 au Monde.
On peut dire plus de 700 voilà. À l'intérieur du groupe.
Voilà, avoir une presse libre, plurielle et indépendante, ça on va en parler, en tout cas dont on connaît en transparence les intérêts, est un enjeu démocratique pour nous tous. Alors on va essayer d'être extrêmement pédagogique, Jérôme Fenoglio. Mathieu Pigas possède une société, on va dire, qui regroupe tous ses biens dans le secteur des médias et également sa participation dans une holding qui contrôle le groupe Le Monde. Mathieu Pigas a décidé de vendre presque la moitié de sa société à lui, à ce monsieur Kretinsky dont on va parler ensemble. Or, sa société à lui fait de lui l'actionnaire majoritaire du Monde. Est-ce que j'ai bien résumé la situation ?
Sa société à lui, qui s'appelle Le Nouveau Monde, fait de lui l'un des actionnaires majoritaires, voilà. Avec deux autres, donc Xavier Niel et l'ayant droit de Pierre Berger, tant que la cession complète des actions de Pierre Berger n'a pas été complètement soldée.
Voilà, donc Pierre Berger est décédé et les actions de Pierre Berger doivent être rachetées petit à petit par Xavier Niel et Mathieu Pigas. C'est le paiement qui est étalé dans le temps,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, c'est ça, oui.
Pendant encore combien de temps ? Deux ou trois ans.
Et donc, du coup, il y a plusieurs actionnaires majoritaires.
Voilà.
Du coup, c'est présenté par la société qui s'appelle Le Monde Libre. Et donc, c'est les parts de Mathieu Pigas à l'intérieur de Le Monde Libre, dans la holding qui le représente, qui s'appelle Le Nouveau Monde. C'est un peu compliqué, désolé, mais ce sont des systèmes de holding personnels. C'est ça dans lequel, aujourd'hui, M. Kretinsky est donc candidat, est en train de négocier donc une reprise de parts minoritaires.
Alors ça, vous l'avez appris totalement par hasard. En réalité, vous l'avez appris parce que vous avez un correspondant dans les pays de l'Est qui s'appelle Blaise Coquelin et qui a été en relation avec, on va dire, une autre personnalité publique et ministérielle.
On ne l'a pas appris complètement par hasard. Moi, de la position où je suis, j'ai quand même des informations et je voyais venir depuis quelque temps que Mathieu Pigas cherchait un partenaire. Et je savais aussi, depuis l'été, que ça pouvait être M. Kretinsky. Mais il n'y avait rien de concret là-dessus. Ce qu'on a pu avoir récemment, c'est l'information par une source extérieure qui nous a permis de publier cette information, puisqu'on a fait très indépendamment le travail des journalistes du Monde. Et je voudrais juste saluer au passage la rédaction du Monde, qui arrive, et c'est très très rare, à faire un scoop sur elle-même. D'habitude, les journaux mettent, allez, on va dire, au minimum une semaine pour informer sur leurs péripéties internes. Ils sont pas très à l'aise avec ça. Mais là, enfin, nous avons pu révéler les choses, enfin, là, le porter sur la place publique.
Vous êtes mis devant un fait accompli, c'est-à-dire que vous aviez eu vent d'éventuelles difficultés financières de Mathieu Pigasse, qui est donc peut-être moins riche que ce que vous aviez cru à l'époque où il était rentré au capital du Monde. Vous aviez eu vent de ce Daniel Kretinsky qui rachète Marianne, qui rachète toute la presse, le pôle de presse magazine du groupe Lagardère, à l'exception de Paris Match et du journal du dimanche, donc qui devient un acteur majeur dans le secteur de la presse française, donc possiblement intéressé par tout rachat possible. Mais là, vous êtes mis devant un fait quasi accompli. C'est ce qu'on appelle une phase de négociation exclusive.
Oui. Un fait accompli, vous savez, pour l'instant, c'est une négociation dont on nous dit que c'est pour entrer comme minoritaire. Rentrer comme minoritaire à l'intérieur de la société qui permet à Mathieu Pigasse de détenir des parts dans le Monde, dans le groupe Le Monde, pour l'instant, c'est pas réellement un fait accompli, parce que ça ne change pas, à l'heure qu'il est, le processus de contrôle du Monde. Rien ne change en réalité. Après, et c'est là que tout commence, et c'est là que le fait n'est pas accompli. Maintenant, on va discuter avec nos actionnaires, Mathieu Pigasse, Gavinel, la rencontre aura lieu la semaine prochaine. On va discuter évidemment avec M. Kretinsky qui va venir nous dire. Et on va commencer à regarder, et effectivement, si les intentions de M. Kretinsky correspondent bien avec ce qu'on nous décrit aujourd'hui. C'est vrai que nous avons beaucoup de mal.
Qu'est-ce qui vous inquiète concrètement? Il devient le partenaire financier d'un de vos actionnaires majoritaires. Qu'est-ce qui vous inquiète? L'idée que petit à petit, il rachète beaucoup plus de parts que ce qui est indiqué maintenant, que petit à petit, il se substitue à Mathieu Pigasse au capital du Monde. Qu'est-ce qui vous inquiète concrètement?
Moi, c'est très simple. Dans la vie, j'ai qu'une inquiétude, c'est que l'indépendance du Monde soit remise en cause d'une manière ou d'une autre. L'indépendance du Monde, elle ne se négocie pas, elle ne se fragmente pas, elle ne se réduit pas. Elle est irréversible et c'est un bien commun, et nos actionnaires l'avaient dit à l'époque, et ils se sont comportés depuis que nous avons changé de système capitalistique. Nous ne sommes plus, nous, journalistes propriétaires du journal, mais ce sont des actionnaires privés. Et ils se sont comportés de manière irréprochable. Autant Xavier Niel que Pierre Berger, que Mathieu Pigasse. Donc voilà, on va vérifier que tout ça reste valable avec, pour l'instant, nous dit-on, un actionnaire minoritaire. Mais on va bien vérifier, primo, que cet actionnaire minoritaire veut bien rester minoritaire, ce qui nous semble effectivement, et c'est là que porte le soupçon, ce qui nous semble ne pas vraiment correspondre jusqu'à présent à la manière dont il s'est comporté dans ses médias en République tchèque, mais aussi dans ses prises de participation en France. Et puis on va vraiment, nous-mêmes, journalistes du Monde, enquêter aussi sur qui est ce monsieur Kretinsky.
Mais vous voulez dire que là, il y a 450 journalistes qui travaillent pour savoir qui est ce monsieur Kretinsky?
Vous savez, c'est pas la peine de mettre 450 journalistes. On a développé une culture d'enquête très forte, et il suffit de créer un pool, ce que nous faisons, ce que nous avons fait. Vous avez vu hier, deux pages pour informer nos lecteurs. Nos lecteurs, je pense, sont les mieux informés de la place de Paris à l'heure qu'il est sur ce qui est en train de se passer chez nous.
Alors, parlons-en un petit peu de ce monsieur Kretinsky, puis on va revenir à cette question de vos actionnaires. Il a 42 ans, il parle relativement bien français, il a étudié quelques mois en Bourgogne dans sa jeunesse. Il ne s'est exprimé qu'une fois dans les colonnes du Figaro, qui ont recueilli quelques citations. Il est avocat de formation. J'ai cru comprendre qu'il était marié à la fille de la plus grande fortune de son pays, mais sa fortune personnelle à lui s'élève à 2 milliards de dollars. Vous l'avez dit, il possède déjà des médias en Tchécoslovaquie.
Oui, il est aujourd'hui le plus gros magnat de la presse tchèque. Le rival est le Premier ministre, M. Babiš. À eux deux, ils possèdent quasiment tous les journaux tchèques qui avant étaient détenus, si j'ai bien compris, plutôt de l'étranger. On nous dit que M. Kretinsky a plutôt un rapport à l'indépendance de la presse plus ferme que le Premier ministre, qui lui est beaucoup plus directif dans son groupe de presse. Tout ça, on va aller le regarder, on va aller le vérifier, on va enquêter. Et puis, il n'y a pas que ça. M. Kretinsky est donc aussi, avant tout, un industriel de l'énergie.
Absolument.
Et donc, on a déjà publié un papier là-dessus et on va aller regarder tout ça en
détail.
Quelle est l'origine de sa fortune ?
Absolument, il possède un groupe extrêmement puissant, 25 000 salariés, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, des investissements dans les énergies fossiles. C'est quelqu'un qui mise sur le nucléaire, sur le charbon et sur le gaz en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie. Les origines de sa fortune, on dit aussi dans les premières enquête publiée sur lui qu'il est lourdement endetté, même s'il grossit de manière comme ça très spectaculaire et agressive.
Ouais. Donc on va regarder tout ça en détail, tout ce que vous décrivez, vous avez pu le lire déjà chez nous, et on va continuer vraiment, bien sûr, on va tout regarder, on va faire d'une pierre deux coups du coup. On va à la fois informer nos lecteurs sur un possible repreneur d'une partie du journal Le Monde, par ailleurs joue un rôle, quoi qu'il arrive, hein, puisque la négociation avec Lagardère est en train d'aboutir, et qu'il a déjà repris Marianne, donc il joue un rôle.
Il a déjà repris Marianne.
C'est sûr, hein, Le Monde ou pas Le Monde, il joue un rôle dorénavant dans les médias français, donc c'est intéressant, et on va vraiment, vraiment tout regarder en détail. Ça nous servira, à nous aussi, journalistes, pour nous prononcer sur est-ce que on peut faire confiance à Monsieur Kretinsky. Entend-il réellement rester minoritaire?
Mais la question
maintenant... prendre le contrôle des parts de Mathieu Pigasse? Le problème qu'on a, c'est que pour avoir confiance, il faut que ce soit en transparence. Et là, le problème qu'on a, vous nous avez demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'on craint, c'est que les conditions de la confiance n'ont pas été réunies. Parce qu'en réalité, et vous l'avez dit, on n'est pas vraiment devant un fait accompli, parce qu'il y a encore énormément de moyens de défense.
Donc
pour
la
nous.
Confiance...
Mais en attendant, la confiance n'est pas établie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été informés en temps et en heure.
Donc la confiance, l'avez-vous toujours? Donc, l'avez-vous toujours vis-à-vis de vos actionnaires? Parce que Daniel Kretinsky, pour l'instant, ne s'est pas encore associé avec Mathieu Pigasse. La confiance, l'avez-vous toujours en Xavier Niel, qui ne s'est absolument pas exprimé? L'avez-vous toujours en Mathieu Pigasse? Pensez-vous que Mathieu Pigasse a été déloyal vis-à-vis du Monde?
Moi, j'ai un critère simple. Je regarde le comportement depuis plusieurs années, et celui dont je suis le témoin depuis 4 ans en tant que directeur de la rédaction, puis directeur du Monde.
Mais là,
c'est depuis 4 ans, depuis que je le vois de près, le comportement est irréprochable. Et là, il n'a pas bougé. Vous avez vu, hier, on a sorti des tas d'infos. On a vraiment pu faire, on continue à faire tous
mais
les jours notre travail avec une liberté totale.
Vous vous retrouvez avec un Daniel Kretinsky.
La question qui se pose là, et on la posera la semaine prochaine, avant tout à Mathieu Pigasse, qui jusqu'à présent a été vraiment un actionnaire qui a respecté, mais dans le moindre détail, la liberté de la rédaction du Monde. On va comprendre la semaine prochaine quel est le problème qu'il peut avoir qui a le fait qu'il a été contraint.
Un problème d'argent, manifestement.
On va voir de quelle proportion il est. Il va nous expliquer qu'est-ce qui a pu le conduire, effectivement, à prendre cette décision.
Mais c'est quand même
de
l'histoire,
vendre une partie.
C'est quand même l'histoire d'une rédaction qui contrôlait son journal. C'est l'histoire d'une rédaction dont la situation économique a été telle qu'elle a été obligée d'ouvrir son capital à des hommes d'affaires. Et elle avait confiance. Elle pensait ces hommes d'affaires solidaires entre eux. Aujourd'hui, on se rend compte que si ça se trouve entre Mathieu Pigasse et Xavier Niel, le courant est coupé. En tout cas, Xavier Niel ne s'exprime pas et on ne sait pas s'il a été consulté dans cette histoire. On ne sait pas si Xavier Niel aurait pu racheter les parts que Monsieur Pigasse souhaite reprendre de Monsieur Berger. C'est beaucoup, beaucoup d'argent à sortir. On sait très bien que vous avez un actionnaire dormant, le groupe Prisa, un groupe espagnol, à hauteur de 20%. 20%, c'est quand même beaucoup.
Oui, mais ce ne sont pas des parts qui contrôlent quoi que ce soit dans les prises de décision.
Voilà, mais c'est
ça se joue entre les 80% du trio.
Voilà.
Ce qui compte, ce sont les 80%
du trio.
Il
n'empêche que Prisa, c'est un actionnaire qui est lourdement endetté aussi et qui pourrait lui aussi un jour revendre ses parts. Donc, en fait, on se rend compte que vous êtes en face d'un pacte d'actionnaires, d'une organisation qui contrôle le journal, qui commence à révéler peut-être ses fragilités, en tout cas, non ?
Il contrôle le capital du journal. Oui. Le capital du journal, c'est une chose. L'indépendance de la rédaction, c'est une autre chose. Oui. Elle est issue de l'histoire que vous avez décrite. 75 ans d'histoire d'indépendance. Ça fait de nous quelque chose d'assez exceptionnel.
Oui.
Sans doute pas très reproductible ailleurs. Nous sommes une rédaction qui est organisée pour être indépendante.
Mais
et
un
ça n'a
changement
pas d'autre
de capital,
sens.
Et Jérôme Fenoglio, ça ne risque pas de menacer l'indépendance d'un journal?
Non, pas au Monde.
Non.
Ou alors ce journal
pas
n'existe plus. Eh ben non, c'est très bizarre à dire, mais non, je ne crois pas que l'on puisse revenir en arrière sur l'indépendance
mais
de la rédaction du Monde.
Pourquoi est-ce que les rédactions du Monde étaient aussi inquiètes hier? Pourquoi?
On se pose des questions,
j'ai
c'est
eu
tout à
des
fait
dizaines
normal.
De confrères
bien
au
sûr.
Téléphone extrêmement inquiets, mais
bien
sidérés,
sûr.
Totalement sidérés
bien
par
sûr.
Cette nouvelle.
Bien sûr, on se pose des questions, c'est obligatoire. Et on va voir comment ce monsieur Kretinsky, qui nous dit qu'il veut être minoritaire chez nous, se comporte. On est d'une méfiance absolue, c'est ça qui fait que je ne suis pas... Au final, si inquiet que ça, on a l'inquiétude que vous avez décrite hier, chevillée au corps. On a ce sens de l'indépendance parce qu'il est le produit de notre histoire et de notre identité. Quand je vous dis que je ne suis pas inquiet, c'est que ça n'existe pas le Monde sans cette indépendance. Ça n'existe pas. Ça disparaît. Et que donc,
et
du coup...
Le Monde va-t-il continuer d'exister? C'est quand même la vraie question. Elle est lourde que vous avez soulevée
oui,
ce
mais
matin.
Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas que le capital. Il y a une collectivité de journalistes et qui a beaucoup de moyens de défense.
Merci beaucoup Jérôme Fenoglio, directeur du Monde. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers. Ce matin, on se demande pourquoi la nature nous émerveille. Dites-nous ce qui vous enchante dans le spectacle de la nature et les paysages qui parlent le plus à vos sens. Nous recevons le philosophe Alexandre Lacroix. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Et relisez Kant.